Salut les sportifs connectés. Vous êtes sur le podcast de Nakan, des sportifs connectés. Je suis Hermano et je ne suis pas seul comme à mon habitude sur ce podcast. Je dirais même que nous ne sommes pas seuls puisque à mes côtés, j'ai Grégory. Salut Greg.
Salut Hermano.
Et j'ai la chance de recevoir David. Tu vas nous dire un petit peu ce que tu fais, qui tu es, mais déjà, salut David.
Salut Hermano.
Eh bien, très chers amis, je suis très heureux de vous recevoir, aussi bien vous deux qui êtes dans une contrée lointaine, un petit peu éloignée de l'Europe, enfin pas tellement puisque vous êtes en Suisse, n'est-ce pas?
Exact, ouais, là on est au bout du lac, on est chez David en fait, c'est plutôt lui qui nous reçoit pour ce podcast, ouais, à Genève en fait.
Chez les Helvètes.
Donc nous avons la Suisse d'un côté avec Grégory et David, et puis on va bientôt voir un petit peu pourquoi Grégory s'est déplacé chez notre invité. Puis de mon côté, je suis au Luxembourg, donc on est quand même un podcast un peu international, tout ça dans la langue française. Le sujet du jour, ce sera la nutrition, plus particulièrement la nutrition sportive. On va laisser David nous expliquer un petit peu qui il est et ce qu'il fait, et puis on va rentrer doucement dans le sujet. Donc je pense que c'est à toi, David, nous te donnons les clés, le micro de ce podcast. Qui es-tu et que fais-tu dans la vie? Et à ton avis, pourquoi est-ce qu'on t'a invité aujourd'hui?
Mon nom est David Jeunecamp. Là, j'ai aujourd'hui deux casquettes. Une casquette d'ultra-runner ou ex-ultra-runner et une casquette d'entrepreneur avec Almondji, les pionniers de la nutrition suisse sans sucre et bio en plus. Donc on va pouvoir aborder les deux aspects en tant que coureur à pied et aussi en tant que transformateur maintenant d'alimentation. Donc j'ai un parcours, atypique. En fait, j'ai été formé aux États-Unis par Stu Mittelman et Phil Maffetone. Alors pour les jeunes du podcast, ça veut peut-être pas dire grand-chose. Stu a été intronisé à l'Ultra Hall of Fame des ultra-runners. C'était le deuxième. Et Phil Maffetone a coaché beaucoup d'athlètes, dont Stu, mais aussi Mark Allen, qui a été quand même 6 fois champion du monde à Kona en triathlon.
Oh voilà. Si tu ouvres la page Wikipédia de l'Ironman d'Hawaï, je pense que Mark Allen, il a vraiment une place de choix dans le palmarès de cette épreuve mythique. Hein.
Donc moi, j'ai eu la chance de travailler avec Stu, qui m'a coaché, et j'ai eu la chance aussi de parler avec Phil, qui m'a aussi beaucoup inspiré, aussi bien dans la démarche sportive que la démarche nutritive. Juste pour donner quelques repères, Stu Mittelman, il a quand même couru 1600 km en moins de 11 jours, donc à peu près 100 miles par jour, sans s'arrêter. Et à l'âge de 50 ans, il a traversé les États-Unis pendant 56 jours, 80 miles, ce qui était aussi pas mal, justement pour défendre la cause de l'obésité. Il a son palmarès des 6 jours, beau background au niveau de l'énergie.
Donc là, on a bien compris ton passif de sportif d'ultra, donc sur des épreuves longues, etc. Donc ça t'a amené à développer une activité professionnelle qui est directement en lien avec la nutrition du sportif d'endurance.
Alors, tout à fait. Ce qui m'a interpellé dans leur démarche, c'est que jusqu'à 40 ans, j'ai fait mon plat de pâtes, mes glucides, enfin tout ce qu'on a appris, les sucres, c'était bio, les fruits, tout juste. Et en rencontrant en fait, en lisant d'abord le livre de Stu, il disait que la vraie énergie vient des graisses. Quand vous êtes né dans les années 70 pour les luxembourgeois ou 70 ici. Bon, moi, je suis né un petit peu avant même. On nous a lavé la tête comme quoi la graisse était mauvaise. La meilleure des journées qu'on pouvait passer, c'était une journée sans graisse. Et en fait, ces gens-là qui avaient une certaine légitimité dans l'endurance parlaient de dire la vraie énergie vient des graisses et on va voir pourquoi. Donc en fait, curieux, j'ai commencé à changer ma manière de m'entraîner. Et puis après, j'ai changé ma manière de manger. Ça, c'était en 2009. J'ai monté les classes de l'ultra avec Stu, où je suis monté jusqu'à 200 km, où j'ai fait 2 fois le tour du lac Léman, ou lac de Genève, ça dépend pour qui. Voilà, qui était un 100 miles. Voilà. Donc, c'était vraiment dans cette quête de découvrir, mais est-ce qu'on peut courir sans sucre, en tout cas avec moins, et quels sont les effets? Et la réponse après plus de 10 ans, oui, tout à fait. Et effectivement, j'ai translaté ça pour ce que j'appelle les héros du quotidien. C'est-à-dire qu'on est tous des marathoniens du quotidien. On n'a pas besoin de faire un 100 bornes ou un Ironman. Je veux dire, voilà, vous êtes entrepreneur, vous êtes peut-être père de famille, vous êtes sportif. Et on a tous besoin de la même énergie. Et c'est là qu'on va, on va comprendre, ou j'ai compris, que bah, l'énergie, c'était pas seulement du sucre, c'était des graisses et c'était aussi des micronutriments.
Donc ça, effectivement, ça va un petit peu à l'encontre de ce que, même aujourd'hui encore, en 2019, on nous ressasse dans l'entraînement sportif. C'est-à-dire que si vous avez un coup de barre, si vous avez un coup de mou, le mieux, c'est de prendre un maximum de sucre en un minimum de temps. Et puis, plus l'index glycémique est haut, mieux ce sera pour vous, parce que vous allez repartir à fond les manettes. Et en fait, toi, tu nous dis que la vérité absolue, c'est l'inverse. Donc, comment expliquer le fait qu'aujourd'hui encore, le discours soit hyper axé sur le sucre et sur l'index glycémique élevé? Est-ce que c'est pour des raisons marketing que les marques continuent à faire ça, ou est-ce que c'est parce que les études scientifiques sont contradictoires les unes avec les autres, ou est-ce que dans le monde de l'ultra, c'est complètement différent des autres sports, et typiquement sur le marathon, parce que le marketing autour d'une course d'un marathon, je sais pas, Hermano, toi t'as eu une expérience il y a pas longtemps à Rotterdam, sur les stands qu'il y a là où tu vas chercher ton dossard juste avant la course, tu trouves mais que des marques alimentaires industrielles qui vont prôner le sucre, le sucre, le sucre.
Bah, en fait, je me suis demandé où était passé Almonji. Je cours pas beaucoup de marathons parce que je suis pas tellement dans la phase en ce moment d'une reprise active et assez rapprochée de ces courses, mais j'en fais peut-être un par an. Cette année, je me suis dit que j'allais en faire deux. Et à chaque fois, sur aucun stand, je trouve du Almonji. Donc effectivement, tu vas sur un marathon expo, que ce soit à Paris, à Rotterdam, à Nice, pour les dernier que j'ai fait et que je connais assez bien, t'as 40% de fringues, 20% de chaussures et le reste c'est que de la bouffe très sucrée et oui, la place du sucre, en tout cas du sucre ultra rapide est omniprésente.
Bon, il y a beaucoup de paramètres dans la question. Alors il y a deux aspects. Il y a, avant peut-être d'expliquer les deux filières et aller un peu plus en détail mais rapidement. C'est une industrie. Moi, je viens de l'industrie alimentaire. Petite anecdote, quand notre ami Tim Noakes, je pense que là aussi, il n'est peut-être pas connu des plus jeunes, mais c'est quand même le pape de la course à pied avec The Law of Running, qui lui prenait du sucre et a changé de position. Mais ça, c'est pas pour l'instant le plus important. Le plus important, c'est qu'il racontait quand il faisait le fameux Conrad en Afrique du Sud. En fait, à cette époque-là, il n'y avait quasi pas de ravitaillement, il courait avec de l'eau. Et le sucre, c'est vraiment arrivé dans les années plus tard, 70-80, avec Gatorade. Là, j'ai aussi des anecdotes de Phil Maffetone, parce que Stu a été sponsorisé par Gatorade. Quand il était champion du monde de l'ultra, ils ont commencé à aller en football américain. Et là, ils étaient plus du tout intéressés dans la course à pied, parce que c'était un marché beaucoup plus juteux. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est de l'industrie. On balance des tonnes de sucre. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est beaucoup plus facile de fabriquer avec du sucre parce que ça conserve, ça coûte moins cher. On va mettre plusieurs types de sucre pour pas pouvoir le déclarer au début pour ceux qui savent pas trop lire les informations nutritives. Et ça augmente aussi l'appétence. Là, pas seulement dans le monde sportif, mais dans le monde de tous les jours. Donc, il y a vraiment une logique marketing. Il y a aussi une logique physiologique. En rentrant dans les détails, voilà, j'ai dit pionnier sans sucre. On est tous d'accord qu'à un moment donné, il faut un petit peu de sucre, mais il en faut nettement moins, et on verra quand est-ce qu'on en a besoin. Parce que là, j'ai aussi une approche relativement claire quand on doit l'utiliser. Mais tout ce théâtre ou ce mythe urbain, comme quoi on peut pas s'entraîner, il y a des moments où il faut le prendre et des moments où il faut pas le prendre. C'est tout. Mais on va pouvoir comprendre, si on rentre maintenant dans l'alimentation, comment ça fonctionne. Donc la première question, c'est d'où vient l'énergie ? Hermano, d'où vient l'énergie ?
Du soleil.
Waouh ! Exactement. Alors effectivement, ça vient du soleil. Donc c'est la photosynthèse et ça fait c'est une énergie en fait chimique. Les hommes vont manger des végétaux, les animaux vont manger des végétaux, certains bipèdes vont manger aussi des animaux. Donc en fait, on va prendre cette énergie chimique qu'on va transformer en énergie mécanique. OK ? On a trois gros blocs. Vous avez tous entendu parler des macronutriments et des micronutriments. Donc les macronutriments, on est justement dans les lipides, les glucides et les protéines. Et puis les micronutriments, c'est tout ce qui est minéral, les minéraux, hein, et tout ce qui est vitamine. Pour la faire très simple, tout ce qui est micro, c'est en fait des petits boosters pour faire marcher toute l'usine qu'est le corps. Et ensuite, dans les macros, on va pouvoir transformer cette énergie en digérant les acides gras, les acides aminés et le glucose, qui va se transformer en fait en cette fameuse ATP, adénosine triphosphate, mais ça, c'est pas important. En fait, faut vous imaginer que c'est des électrons d'hydrogène qui arrivent dans nos cellules. Et on va déjà voir que la graisse, elle est beaucoup plus efficace parce qu'il y a le double d'hydrogène que dans la protéine ou le glucose. Ça, c'est la première des choses. Donc voilà, on arrive, on a du fuel. Maintenant, il y a, avant d'aborder les deux types de fuel, on va parler de la calorie. On va revenir à Phil Maffetone qui expliquait quand Mark Allen gagnait Kona, les journalistes lui posaient la question, mais oui, il a pris combien de calories? Hein, il a pris combien de calories? Alors, on sait que la calorie, c'est 13 kilojoules. En fait, c'est une mesure qui a été faite pour monter d'un degré un décilitre d'eau. OK? Mais la mathématique, elle s'arrête pas là. Après, on va dire qu'il y a, pour les protéines et les sucres, il y a 4 calories par gramme. Pour l'alcool, il y a 7. Et pour les graisses, il y a 9. OK?
Donc mieux vaut même l'alcool que le sucre.
Oui, oui, oui et oui.
Le problème de l'alcool, c'est qu'il faut... Je garde, tu reprends la question pour après.
C'était plus une boutade, mais on peut la garder pour tout à l'heure.
En fait, la première des choses, c'est la satiété. La satiété, ça vient principalement des fibres, de l'eau et de la protéine. Donc suivant ce qu'on mange, on n'aura pas la même satiété. L'autre chose qui est très importante et qui va nous occuper après, c'est l'effet sur les hormones. L'insuline, les hydrates de carbone, pardon, c'est le moteur de l'insuline. C'est-à-dire que l'insuline, quand on prend du sucre dans notre système, il faut s'imaginer pour les auditeurs, c'est 5 grammes en moyenne encore. 5 grammes, c'est une cuillère à café. Dès qu'on dépasse ce taux-là, on a ce qu'on appelle la glycémie qui monte. C'est simplement le taux de sucre dans le sang qui monte. Et plus ce taux de sucre va monter, plus il va falloir le baisser. Il faut savoir que c'est toxique. Hein. Les diabétiques, on leur coupe les membres à la fin parce que en fait, ça va non seulement créer de l'inflammation, mais ça va attaquer les terminaisons nerveuses. Et en plus, le sucre, comme c'est toxique, quand on a du sucre dans le système, on arrête de brûler les graisses. Et ça, c'est un point très important. Donc, je répète, quand on a du sucre dans le sang, on arrête de brûler les graisses. Et souvent, on prend du poids. C'est pas parce qu'on mange des graisses, c'est parce qu'on mange du sucre. Et donc, comme le sucre est le moteur de l'insuline et l'insuline est le moteur des graisses, on arrive à ceci. Donc ça, c'est très important, ce qu'on va mettre dans l'estomac. Ensuite, c'est l'apport en nutrition. On a parlé des micronutriments. On peut très bien s'imaginer que si on prend 1 kilo de blé divisé par sa calorie ou 1 kilo de brocoli divisé par sa calorie, en termes de nutriments, on aura quand même dans le brocoli quelque chose de plus intéressant. Et après, il y a encore toute l'absorption. L'absorption, les graisses, ça passe tout droit. Ensuite, le sucre, s'il n'est pas transformé tout de suite en énergie, il va se transformer grosso modo en graisse. Et puis, les protéines, tout le monde a entendu parler des protéines. Là, il faut à peu près 2/3 d'énergie pour les transformer. C'est-à-dire que quand on met de la protéine, si on n'en a pas besoin sous forme de protéines, d'acides aminés pour nos tendons, nos muscles et compagnie, ça peut se transformer en énergie et en sucre. Et si on n'a pas besoin d'énergie, ça va se transformer en graisse. Donc c'est pour ça que souvent la protéine, et on a vu aussi qu'elle amenait de la satiété, est intéressant pour diminuer aussi l'appétit. Donc on voit que la mathématique s'arrête pas à la calorie, il faut vraiment comprendre les incidences de la calorie. Maintenant, je saute tout de suite sur les filières énergétiques. On a vu que l'énergie, elle peut provenir en fait des trois macronutriments. Donc effectivement, Grégory mentionnait au début, tout le monde nous parle du sucre, du sucre, du sucre. Oui, mais le sucre, et ça les sportifs sont au courant, on en a à peu près 1800 calories à disposition. Si on est optimisé, on en a 2000, ou on en a à peu près 1600.
Donc là, tu parles du glycogène qu'on a près dans les muscles et dans le foie au début d'une compétition.
Exactement. Et petite remarque, si vous mangez normalement, vous n'avez pas besoin de faire ce qu'on appelle ce stock de glycogène.
Ouais, ce qu'on appelle dans le milieu le carbo-loading.
Merci, le carbo-loading. On est maintenant relativement tous d'accord qu'en fait, les gens, ils se bourrent de pâtes avant. Ils se tapissent l'intestin et puis le jour de la course, parce qu'après, il y a aussi l'assimilation, on va en parler. Tout d'un coup, avec le stress, ils se retrouvent avec du mortier dans les intestins, puis ils ne comprennent pas qu'il y a un problème.
Ouais.
Ce qu'il faut savoir dans la digestion, c'est qu'à l'UTMB, mon ami Grégoire Millet me racontait que 50% des abandons, ça vient de la digestion, la plupart du temps. Donc, il y a la filière sucre et il y a la filière graisse. En graisse, on a à peu près 40 000 calories à disposition. Donc, autour de cette table, Armano, Grégory ou moi, on pourrait partir maintenant, faire le tour du lac. On aurait assez, on dit, pour faire à peu près 1 600 km. Alors après, voilà, les écoles. Mais en fait, si on arrive à aller dans la graisse, c'est en fait du diesel. C'est vraiment pour un effet à long terme. Et l'autre... Le sucre, c'est vraiment du jet fuel, à l'utiliser vraiment comme des avions de chasse. Donc, si on commence à prendre conscience de ce réservoir-là, dans l'ultra, on est en fait fainéant. C'est-à-dire qu'on veut manger le moins possible et courir le plus longtemps. Donc, si on arrive à accéder à ce potentiel de graisse et utiliser juste le sucre à bon escient, ben voilà, c'est ça vraiment la stratégie de ma fétone, de Stu, c'est-à-dire devenir des burning ou des fat burning machines par l'alimentation et par l'entraînement.
Ouais, il suffit pas de switcher le petit interrupteur et de choisir la filière d'énergie qu'on souhaite pendant notre course.
Alors ça marche pas. Je vais prendre l'exemple qui est complètement contre-intuitif, mais qui est ce qui se passe pour la plupart des gens. C'est que, en fait, le sucre, c'est vraiment pour le fight and flight, hein, c'est vraiment pour sauter. Et qu'est-ce que fait un coureur typique? Il va, ou en entraînement, il va tout de suite pas se chauffer, il va partir. Donc il va tout de suite partir dans les sucres. Qu'est-ce qu'il va faire encore en alimentation? Il va se prendre encore peut-être une boisson ou un cookie, quelque chose. Donc comme je l'ai dit avant, dès qu'on met dans la bouche du sucre, on va en fait diminuer notre faculté à brûler les graisses. Donc, le premier des conseils, c'est avant l'entraînement, surtout pas prendre du sucre. Le sucre, il va vraiment falloir le prendre dans les deux tiers si on en a besoin. Et je dirais même en compétition, ça suffit amplement. Donc, on va vraiment l'utiliser comme du jet fuel. Ça va nous booster parce qu'on n'a pas l'habitude et on va vraiment l'utiliser. Alors, ce qui se passe, c'est que oui, vous pouvez vous entraîner avec du sucre. Souvent, après l'entraînement, on va encore se récompenser avec du sucre. On aura effectivement brûlé la calorie, mais à la fin, on aura brûlé que du sucre. Et aujourd'hui, on voit des athlètes qui sont en surgras. Le reste de la population est en surpoids. Vous avez qu'à regarder les Jeux Olympiques. Qu'est-ce que ça veut dire, le surgras, mesdames, messieurs, mesdemoiselles? C'est que par rapport au nombre d'heures que vous vous entraînez, vous êtes trop grassouillet. Désolé de vous le dire.
Je lève la main, j'avoue.
Ouais, je crois qu'on plaide d'un peu tous coupables, quoi.
Et ça, c'est la, vous pouvez vous entraîner comme des bêtes. Le deuxième processus, je pense qu'on peut aller là-dedans maintenant, c'est comment est-ce qu'on brûle les graisses en entraînement. Les graisses, en fait, c'est l'analogie comme un petit feu. On allume d'abord des petites brindilles, ensuite on met des plus grosses branches, et puis après on met effectivement les bûches dessus. Donc il y a un temps d'adaptation. Donc il faut d'abord s'échauffer. Vous savez, s'échauffer, c'est chauffer le corps. Et je suis toujours sidéré de voir, moi j'habite en montagne maintenant, près des trails, les gens, ils sortent de la voiture, ils partent en courant, ils vont courir, s'ils pouvaient sauter dans le coffre, ils sautent dans le coffre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez tous entendu parler des fibres lentes et des fibres rapides. Quand on va mettre notre corps en mouvement, on va mobiliser beaucoup plus d'abord les fibres lentes, et celles-ci vont être un gageur de mettre justement toute cette machine de graisse en route. Et petit à petit, on va monter à son seuil. Alors après, il y a des seuils techniques. Les seuils Mafeton, c'est ce qu'on appelle le MAF ou le MEP. C'est 180 moins votre âge. Donc par exemple, si vous avez 40 ans, vos pulsations, on va commencer à brûler les sucres, être aux alentours de 140. Ceci se vérifie aussi avec les échanges gazeux, avec le respiratory quotient, mais on ne va pas aller trop loin là-dedans. Tout dont je parle, ben effectivement, ça se mesure. Donc à partir de là, on va s'entraîner, et l'idée, c'est d'augmenter, parce qu'il y a la deuxième question que tous les sportifs vont, et même Mark Allen, au début, quand il s'entraînait avec Phil Maffetone, il a dit, mais attends, moi, j'ai pas diminué mon allure. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on va en fait s'entraîner à plus basse allure pour augmenter la vitesse. Et Mark Allen, je crois que pour les records qu'il a fait, il courait, lui, en zone de graisse, je sais plus, à 5-6 minutes le miles. Ce qui est quand même pas mal du tout, quoi. C'est quand même des avions de chasse. Donc, tout ça pour dire, Tim Olson aussi, lui il est vraiment low carb high fat. Tous ces gens-là, ils s'entraînent vraiment dans cette philosophie, et après en compétition, ils vont prendre un peu de sucre. Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est toujours avant, et enfin c'est les entraînements. La compétition, c'est encore quelque chose de différent.
Le premier épisode qu'on a fait avec Denis Boucher, courir lentement pour s'entraîner plus longtemps et plus vite. On confirme bien ce que l'on dit depuis quelque temps, là, David.
Et il y a une deuxième chose qui est hyper importante. Boris Gojanovic, qui était l'ancien médecin olympique en Suisse, que j'ai assisté à une de ses présentations, et la question de dire qu'est-ce qui est le plus important chez un athlète pour sa performance.
Bah, il y a plusieurs aspects. Je pense que déjà, il y a un aspect génétique et morphologique de l'athlète qui va le prédestiner plutôt à être performant dans telle ou telle discipline. Ensuite, je pense qu'il y a une partie mentale, il y a une partie de résistance à la douleur. Enfin, vraiment, ça fait...
Oui, alors, admettons qu'ils ont tout ça. En fait, c'est pas de se blesser. Lui, il posait la question à tous ses athlètes. Les autres, c'était plus s'entraîner, mental et tout. Et moi, j'étais un des seuls à dire, faut pas se blesser. Parce qu'effectivement, plus on va s'entraîner dans les tours, plus on a une propension à se blesser. Plus on va manger du sucre, plus on a un terrain acidifiant. Plus on va faire du sport, plus on va créer de l'inflammation. Mais d'abord, la première blessure, la blessure physique, c'est voilà, aujourd'hui on sort du labo et puis on se tord le pied dans l'escalier. Voilà, ça c'est physique. Par contre, il y a la blessure dite chimique qui commence justement par le surentraînement, qui commence par pas se chauffer, qui commence par manger trop de sucre ou vraiment avoir un terrain acidifiant. Et là, cette blessure chimique va souvent vers la blessure physique. C'est la petite douleur dans le genou, c'est la petite douleur qu'on veut pas écouter. Et puis au bout d'un moment, bah voilà, ça passe en physique. Et la troisième, c'est la blessure mentale. Je pense que vous avez tous connu des athlètes qu'on bourrait une saison et ils se retrouvent la saison d'après mais ils n'ont pas envie d'aller s'entraîner.
C'est juste le burn-out sportif.
Et c'est aussi simple que ça.
Et donc, ta théorie, c'est que le burn-out sportif viendrait finalement de l'alimentation et du surentraînement.
Complètement. Et la manière de s'entraîner, encore une fois, pour ceux qui veulent perdre du poids, c'est complètement contre-intuitif, mais en fait, il faut s'entraîner doucement. Ça n'empêche pas de mettre après des séances, d'augmenter un peu la variabilité du cœur. Mais en fait, l'approche de Stu et de Phil, c'est vraiment... quasi le 70-80% du fond, et vraiment la petite cerise sur le gâteau. Et au début, quand ils m'ont pris en main, on a vraiment commencé à faire de la vitesse, vraiment après 6 mois, une année, quoi. Enfin, des accélérations.
Et je pense que sur la liste des adeptes de ce type d'entraînement, tu peux effectivement rajouter Denis Boucher, tu peux rajouter Paul Sardin, qui est mon entraîneur, et je pense de plus en plus de gens...
Mais tous les labos du sport, hein, vont le dire. Moi, je suis allé faire un test d'effort encore il n'y a pas longtemps sur le vélo. On s'entraîne justement tout le temps dans cette zone qui est juste après ou juste avant le seuil et qui est en fait la pire zone dans laquelle on peut s'entraîner, qu'on devrait réserver aux compétitions, mais c'est vrai qu'on devrait s'entraîner 80% de son entraînement plus bas que ça, à des allures très aérobies où on est capable de parler sans s'essouffler, et puis le 20% restant devrait être plus haut que ces zones dans lesquelles on s'entraîne habituellement pour développer la résistance à l'effort lactique et puis le développement de la VO2 pure. Mais quand on s'entraîne pile poil entre ces deux zones, c'est contre-productif à plein de niveaux, et notamment au fait que on n'est pas dans la bonne filière énergétique, on s'épuise plus au niveau du métabolisme musculo-squelettique, etc. Et puis, comme en plus David nous le dit maintenant, on n'exploite pas les bonnes filières énergétiques et du coup, on n'entraîne pas le corps dans la bonne zone.
Qu'on s'entraîne pas dans la bonne zone et que ce soit l'erreur classique de beaucoup de sportifs, voire malheureusement de certains entraîneurs qui poussent leurs athlètes à aller dans ces zones-là, c'est une chose. Après, moi, j'ai deux questions. La première, c'est comment est-ce que l'on fait pour détecter son seuil un peu tout seul quand on n'est pas forcément accompagné par un entraîneur ou qu'on n'a pas la chance de pouvoir aller dans un labo faire un test d'effort. Donc comment est-ce que, plus ou moins à l'instinct, on arrive à déterminer ce seuil? Et la deuxième question, David, elle sera pour toi. Qu'est-ce que tu apportes, toi, à s'entraîner mieux et à soigner leur alimentation?
Arriver au seuil, en fait, c'est très simple. Si on n'a pas de fréquence cardiaque, la fréquence cardiaque, on l'a dit avant, c'est 180 moins son âge. Mais il y a une chose qui est toute simple, c'est la respiration. Dès qu'on commence à faire du bruit, c'est qu'on commence à aller dans le seuil des sucres. Un bon exercice, moi je cours maintenant depuis des années, avec la bouche fermée, c'est de respirer par le nez, parce que ça nous oblige déjà à réduire la vitesse. Quand on l'augmente, il faut avoir une bonne oxygénation. L'autre chose, il y a après ce que j'appelle tous des marqueurs kinesthésiques, c'est-à-dire que quand on est dans la zone, on entend les sons, on peut dire bonjour aux gens, on est un petit peu dans ce que je dirais, ce groove, on est conscient, on peut être un peu se laisser aller, mais on n'est pas du tout, dès qu'on arrive dans le sucre, on arrive dans ce que j'appelle cette vision tunnel. Pourquoi? Parce que le sucre commence à partir du cerveau, on se concentre beaucoup plus sur nous. On voit combien de coureurs qui arrivent même pas à dire bonjour quand on les croise en campagne. Moi, je comprends pas, mais je comprends en fait que physiologiquement, ils sont en survie, ils sont en train de souffrir.
Je pense que des fois, ça doit être moi. Hein.
Et voilà, donc ça, c'est toute une approche aussi, quand je fais du coaching, qu'on apprend, qu'on fait. On a ces repères kinesthésiques, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout de plusieurs heures de compétition, le cœur, après, il va rebaisser. Enfin, il faut avoir d'autres marqueurs. Mais très simplement, c'est que si on commence à être concentré sur nous, être en survie, et puis à respirer, on brûle les sucres et là on passe le seuil.
Peut-être que pour l'alimentation, on va passer directement à un exercice pratique pour nos auditeurs. Parce qu'en venant ici chez Almondji, j'ai pris avec moi deux barres énergétiques qu'on trouve sur le marché, donc qui sont des barres industrielles. Donc on a une barre Power Bar et puis une barre Cliff. En l'occurrence, je posterai une photo des différents emballages qu'on a ici autour de la table pour que les auditeurs puissent les consulter sur l'article du podcast sur podcast.nakane.ch. Mais là, en l'occurrence, David, est-ce que tu peux nous aider à déchiffrer dans la vraie vie la composition énergétique de ces différents emballages qu'on a sous les yeux et puis nous dire lesquels sont adaptés à ton sens, à une consommation sur un sport d'endurance, donc pendant l'effort, et puis les indicateurs qui doivent alerter le consommateur que nous sommes, rien que la liste soit de la composition au niveau des ingrédients, soit au niveau de la teneur énergétique de ces différentes barres.
Première chose, vous verrez les paquets. Grégory, tu peux témoigner. Là, il y a au moins l'air d'avoir au moins 20 à 30 ingrédients dans chaque paquet, en tout cas pour les deux barres que tu as amenées.
Oui, alors là, on peut le confirmer, puis je posterai une photo sur le site avec la liste complète.
Donc, l'industrie utilise 20 ou 30 ingrédients. Encore une fois, c'est pour conserver, c'est pour baisser les coûts. Et là, je vous parle en tant qu'ex-financier d'un grand groupe alimentaire qui s'appelait Kraft Foods, maintenant qui s'appelle Mondelez. Donc, on fait ce qu'on appelle la reformulation. Voilà, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Donc, quel est l'impact, avant de lire les infos nutritives? C'est l'assimilation. notre bar Almondgil et E-Cubes, ils ont que 5 ingrédients. On va déjà intuitivement se dire, bon, ben, c'est plus facile de digérer de l'alimentation qu'une formule alimentaire, parce que ça, c'est des formules alimentaires, d'accord ? Autre chose, notre bar, elle a que des éléments naturels. Elle a de l'amande, du blanc d'œuf et puis un peu de miel. Mais le miel, on l'a utilisé justement comme un épice et juste pour faire un petit apport glucidique. Vanille, poudre de cacao, pardon. Là, on regarde 2-3 aliments. Il y a la maltodextrine, il y a enfin, inverted sugar, etc. Il faut savoir que tous ces éléments, ils vont être plus difficiles à assimiler. Et ça, c'est vraiment en compétition. Si on prend la compétition, c'est vraiment l'assimilation. Après, en entraînement, voilà, on pourrait manger du Toblerone, ça serait presque la même chose que ces bars. Et je sais qu'il y a un coureur qui monte des montagnes et qui court très très vite, on va pas le nommer, qui apparemment est fameux pour manger du Toblerone, mais je vous ai rien dit. Donc là, on est vraiment sur la digestion. Dernier point, la digestion, il faut savoir que notre produit, il est plutôt monosaccharide, le miel est monosaccharide, alors que les céréales sont polysaccharides. Alors effectivement, polysaccharide, c'est plusieurs sucres, c'est plus difficile à digérer. Ça, c'est la première des choses. Donc, c'est un choix. Est-ce qu'on veut manger quelque chose de naturel, notre bar est bio, ou est-ce qu'on veut manger une formule alimentaire avec 30 et 20 ingrédients? Autre chose, notre bar, j'ai dit avant de les regarder à Grégory, moi, ce que je dis, c'est qu'on a 2 fois plus de protéines et 2 à 3 fois moins de sucre. Tu peux confirmer. Sans aller dans les ratios, notre bar, elle est... Si je regarde nos sucres au 100 grammes, on est à 13 grammes. C'est-à-dire que dans la portion, on est à 6 grammes. Là, on est à 44 grammes. Et là, on est à... Bingo. Sucre. On est à 32 grammes. Donc voilà. Ensuite, il n'y a quasi pas de graisse. Et on a plus de fibres. Donc l'un dans l'autre, qu'est-ce qu'on va avoir sans faire les tests de glycémie? Et là, je suis en train de porter un capteur de glycémie pour une étude de l'EPFL. Donc, j'ai eu la glycémie pendant 14 jours en continu. Qu'est-ce qu'on va voir? Sans les tester, on peut être sûr qu'on va avoir un pic de glycémie. Donc, on va monter. Donc, ça va faire un apport de sucre. Et puis, après, il va y avoir le crash. Ces types de barres-là, si on veut justement à 2/3 de la course en prendre un petit peu, mais pourquoi se fatiguer? On pourrait tout à fait prendre... de l'eau avec du miel ou une boisson un peu sucrée, ça ferait tout à fait l'effort. Stu Mittelman me disait, jusqu'à 100 km, il n'y a pas besoin de manger. On a fait une émission avec Grégoire Millet qui citait Tim Noakes. Il disait, jusqu'à un marathonien, jusqu'à 2h20, il a techniquement pas besoin de prendre d'apport, il peut courir. Après, il faut quand même qu'il prenne un peu de sucre. Moi, je parle de mes barres. Je leur dis, si vous courez en moins de 2h30 le marathon, restez sous le liquide, vous n'avez pas besoin de la barre. Mais ça suffit. Tout ça pour illustrer qu'on revient à la stratégie. Je suis sportif, je m'entraîne ou je fais une compétition. Je veux brûler le plus longtemps possible mes graisses et partir sur mes sucres. Cette stratégie, elle joue aussi bien pour des sports des crossfitters, pour des hockeyeurs, des sports plus violents. Plus on va être capable de brûler nos graisses, moins on aura d'inflammation. Et après, on va utiliser effectivement le sucre comme du jet fuel. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ces barres. Et après, c'est la même chose avec les céréales. Les céréales, c'est des glucides et des fibres. Nous, on a fait un petit déjeuner à base de noix et de graines, infusées à basse température aux épices. 20% de protéines. 20% de protéines, c'est l'équivalent d'un saumon. On a des pains aux amandes. C'est toujours la même philosophie, c'est des pains aux amandes ou avec des œufs ou avec du tofu soyeux. Là, c'est tous des produits qui ne font pas monter la glycémie. On a un dernier, c'est un cracker. Vous pouvez appliquer les mêmes principes, mais il faut être conscient que dès que vous allez mettre du sucre dans votre bouche, vous allez arrêter de brûler des graisses et vous allez devoir en reprendre beaucoup plus. C'est pour ça qu'on se retrouve sur des problèmes de digestion, parce que ça, c'est aussi le corollaire. Les produits, quand on est adapté en graisse, on mange moins, donc on va plus loin.
En ce qui me concerne, juste pour être transparent avec nos auditeurs, j'ai rencontré David il y a quelques semaines ou peut-être un mois. pour préparer cet épisode du podcast. Et puis là, je lui ai acheté quelques-uns de ces e-cubes Almonji. Et puis, je les ai testés pendant mon entraînement régulier sur des sorties longues de course à pied. Alors, c'était des sorties de moins de 2h20. Pour les sorties à vélo, c'était des sorties de 3-4 heures. Je veux dire, au niveau de l'alimentation, la plus grande barrière, elle est psychologique à se dire, on a tout le temps fonctionné avec du sucre rapide. On a toujours l'impression qu'au moment où va arriver le coup de barre, il nous va nous falloir du sucre parce qu'on est conditionné psychologiquement pour ça. Et puis, c'est vrai qu'il y a un moment ou un autre, on a une baisse de performance. Et puis là, on se dit vite du sucre, et puis c'est peut-être pas en fait le bon réflexe, parce que ça va nous requinquer pendant quelques minutes, mais après, comme le disait très bien David, on va avoir une montée d'insuline, et puis après, la chute qu'il y a ensuite au niveau de la glycémie, bah, elle va de nouveau être fatale au niveau de la performance sportive, donc... J'ai testé les e-cubes et puis ce que j'ai constaté alors en premier effet, c'est surtout la facilité que j'ai eu à digérer ça pendant que j'étais en train de produire un effort par rapport aux deux autres barres que j'ai amenées avec moi ce soir qui en général ont un petit peu plus de difficulté à passer en carburant que je peux exploiter en course à pied, quoi, pour dire les choses poliment.
Bah, et je pense que la première constatation que tu aurais pu citer, c'était aussi le goût. Parce que moi, j'ai eu l'occasion de tester ces cubes-là il y a quelques années, et c'est vrai que au niveau du goût, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus agréable que les barres traditionnelles.
Oui, alors ça aussi, tout à fait. Et puis, d'un autre côté, c'est un goût qui est moins agressif, donc qui ne va pas forcément nous inciter ensuite à ingurgiter un demi-litre d'eau pour essayer de faire passer ça. Et ça aussi, c'est important, hein, au niveau de la digestion et puis de pas surcharger l'estomac. Donc effectivement, tu as tout à fait raison de souligner ça. Il y a vraiment moins ce côté très sucré qui va faire que immédiatement après, on doit boire quelque chose par-dessus. Et puis alors, si là, c'est une boisson sucrée, alors là, c'est le sommet.
Alors, juste pour rebondir sur le seuil psychologique au début, moi, effectivement... Je me demandais comment j'allais tenir sur la distance sans manger. Et après, dans mes années où j'ai fait les compétitions, je m'entraînais 5 à 6 heures avec de l'eau et des électrolytes, donc sodium, potassium, magnésium, calcium, c'est tout. Et je mangeais, là, les e-cubes, c'était enfin sur la rentrée, donc c'était des entraînements de 5 à 6 heures. 5 heures, je faisais un marathon, 6 heures, 50 km, deux fois par semaine, en courant tous les jours. Donc en fait, bien sûr, la vitesse, on parle toujours de la vitesse, mais quand on fait du fond, même on avait des entraînements de 4 heures sur piste pour faire les épreuves, ce qu'on appelle circadiennes, les 24 heures. Et là, ils me mettaient une heure de sprint et je faisais ça en sandwich. Bon, bien sûr, je n'étais pas sur des allures de marathonien, mais en fait, on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et bon, on peut encore aller plus dans les détails, un petit goût sucré, ça suffit. Mais on n'a vraiment pas besoin. Moi, ça fait depuis 2009 que je m'entraîne à jeun. J'ai mes premiers repas à 11h midi et j'ai pas du tout faim parce que je suis adapté en graisse, enfin à brûler des graisses. J'ai pas de carence, voilà. Donc, il y a vraiment beaucoup de mythes. Il y a des moments, bah effectivement, il faut aussi s'alimenter des fois un peu différemment. Et ça m'est aussi arrivé de passer dans des entraînements où j'avais passé les seuils et là, j'ai repris du sucre. Mais voilà, on est vraiment dans de la biochimie 101 et c'est relativement simple. Mais malheureusement, bah, 80 ou 90% des athlètes sont toujours sur « Ah, il faut prendre du sucre, il faut prendre du sucre ». Et pour finir, on arrive à des athlètes maintenant qui viennent, bah, qui sont en surgras et qui viennent diabétiques et qui perdent leurs dents. Et ça, c'est mon dentiste qui me l'a dit. Il savait même pas ce que je faisais. Il m'a dit l'autre jour, ah, mais je comprends pas, cet athlète-là, en fait, il était toujours en train de prendre des boissons sucrées et il avait les gencives qui étaient attaquées.
Voilà. Argument de plus s'il en fallait pour limiter ou éliminer le sucre de notre entraînement. Mais là, ce qui est intéressant aussi, c'est la partie limite psychologique, devoir s'alimenter pendant un effort d'endurance. Parce que c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose que nous, en tant que sportifs amateurs, quand on va se renseigner sur la littérature grand public sur le sport, c'est clair que ces informations-là... Alors, très clairement influencé probablement par le marketing et par les marques qui sont très très fortes là-dedans, mais c'est voilà notre gel pour votre 5 km. Donc vu que on nous propose un gel pour un 5 km, comment ensuite faire comprendre à un athlète qui va partir sur un marathon en lui disant sur ton marathon une cuillère à café de miel, ça te suffira pour finir ton marathon. Donc effectivement là il y a un énorme travail aussi psychologique à faire là-dessus et oser partir s'entraîner pendant 3 heures peut-être avec juste de l'eau, des électrolytes, et ne rien consommer de solide pendant cet entraînement-là.
Moi, ce que je te propose, Greg, c'est que on fasse marcher de bouche à oreille. C'est-à-dire que on propose à nos auditeurs de nous faire un petit retour sur cet épisode et éventuellement, si on a un petit pool de 4-5 athlètes qui veulent tester, on leur offre un paquet d'Almonji et ils voient déjà ce que ça donne en termes de goût, deux, ce que ça donne en termes d'assimilation, parce que corrige-moi David, mais dans tes sachets de e-cube, il y en a combien?
Il y a 3 e-cube.
3 e-cube, donc si on leur offre déjà un paquet, si on leur demande de tester ça en partant du principe qu'ils prendront un cube par entraînement, faire 3 entraînements, voir ce que ça donne. Et puis, si ça leur plaît, on peut les inviter à réagir en audio dans un prochain épisode, pour que finalement, les gens se rendent compte que la filière sucre, c'est peut-être pas la meilleure chose. Cette discussion me fait énormément penser au lobby de l'essence. Ça fait des dizaines d'années qu'on nous dit que l'essence et son corollaire, le diesel, c'est pas bon pour la planète, ça coûte de plus en plus cher. Pourquoi est-ce qu'on passerait pas à l'électrique ? Je suis pas certain que ce soit qu'un problème de prix des voitures qui soit exorbitant et que la voiture électrique, elle soit réservée uniquement aux bourses les plus fortunées de notre planète. Je pense aussi que c'est un problème de lobby et ça me rappelle énormément ce problème de l'alimentation dans le sport, voire même peut-être l'approche du sport. Comme disait David, 80% des gens s'entraînent toujours bien trop vite, bien trop fort, alors qu'il faudrait un peu baisser la voilure pour s'entraîner plus vite et plus longtemps.
Je pense que là, on a vraiment bien touché à l'essence même du message qui est communiqué en masse hein, aux sportifs amateurs et aux sportifs d'endurance. Le marketing, encore et toujours, on en parlait lors de l'épisode précédent avec le marketing sur les nouveaux modèles de montres connectées qu'on va utiliser pour s'entraîner. Cette fois, c'est du marketing sur les produits sucrés pour l'entraînement. Et puis, probablement que lors du prochain épisode du podcast, on reparlera encore de marketing sur une autre chose. C'est vrai que c'est une partie intégrante de nos vies aujourd'hui. Et puis, c'est parfois vraiment pas dans le bon sens que le marketing nous submerge de messages. Mais par contre, alors, effectivement, l'invitation est ouverte aux sportifs qui souhaitent essayer l'alimentation proposée par Almonji. Donc, on retrouvera toutes les informations là-dessus sur podcast.nakan.ch sur la page de cet épisode du podcast. Et puis, David, est-ce que tes produits, on peut les commander en ligne? Est-ce qu'on peut les acheter facilement, qu'on soit suisse, français, luxembourgeois, belge ou ailleurs dans le monde?
Enfin, un site web qui fonctionne très bien. Donc en Suisse, ben voilà, nous on est en Suisse, les frais de port sont offerts à partir de 60 francs.
Bon, toutes les infos dans les show notes, mais si vous êtes en train de courir, de rouler ou dans la voiture et que vous vous demandez comment est-ce qu'on achète les produits d'Almonji, c'est pas dur, c'est Almonji, almonji.ch/shop, et puis vous aurez toutes les infos et vous verrez un petit peu. Et puis comme l'a dit David, si vous voulez qu'on essaye de faire une commande groupée et qu'on dispatche, on peut aussi regarder tout ça, donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, un petit message et on regardera tout ça ensemble. Je pense qu'on est pas mal. On a donc parlé des filières énergétiques, on a parlé de l'alimentation en général, l'alimentation du sportif, les produits que propose David. On a fait le tour. David, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose?
Profitez, entraînez-vous, chauffez-vous.
Échauffez-vous.
Échauffez-vous, chauffez-vous et surtout, évitez de prendre du sucre soit avant une compétition, soit avant l'entraînement, soit le matin. Et vous verrez vos niveaux d'énergie augmenter et votre endurance aussi.
Eh bien, le rendez-vous est pris. Hein. Moi, j'ai une saison de triathlon devant moi et je vais essayer d'appliquer ces consignes à la lettre pendant mon entraînement et pendant les compétitions. Et puis, éventuellement, au mois d'octobre, novembre, faire un petit feedback sur comment tout ça s'est passé en bannissant ou en tout cas en réduisant drastiquement les quantités de sucre que j'ingurgite pendant mes entraînements. Parce que jusque-là, c'est vrai que j'étais une pauvre victime du marketing.
Bon, messieurs, merci beaucoup pour cet épisode, pour cet échange qui, je l'espère, a été très instructif, pas uniquement pour nous, mais aussi pour nos auditeurs. On rappelle que si vous voulez nous faire un petit plaisir, n'hésitez pas à aller sur iTunes ou sur les plateformes de podcast que vous utilisez habituellement, nous laisser des commentaires, qu'ils soient bons ou moins bons. S'ils sont moins bons, ça nous permettra de nous améliorer. Et puis, si vous voulez réagir sur cet épisode ou sur les précédents, un commentaire sur notre site ou alors un petit segment audio. Toutes les infos sont sur le site internet. En tout cas, merci encore à toi, David, de la société Almonji, de nous avoir reçus chez toi. Et merci à toi, Greg, d'avoir animé le débat.
Merci à toi, Hermano, d'avoir pris part à cet épisode du podcast. Et puis rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode.
Merci, bonne soirée, au revoir.